faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte.
Et donc
On n'arrête pas l'écho. Le débat.
Ce qu'on observe, comme aujourd'hui d'ailleurs, vous le voyez, il y a du soleil et des fleurs bourgeonnantes, c'est un printemps de l'économie mondiale.
Christine Lagarde, directrice générale du FMI.
Nous voyons clairement une reprise, un moment du cycle économique dans lequel la croissance repart et qui nous donne des perspectives de plus d'emplois, de plus de revenus.
Voilà, c'est assez rare que le FMI révise en cours d'année sa prévision pour la croissance mondiale, donc ça mérite d'être souligné. On passe de 3,4 à 3,5.
Il nous reste beaucoup de défis à relever.
Jim Yong Kim, président de la Banque mondiale.
Nous devons poursuivre les efforts collectifs, mais nous avons fait beaucoup de progrès.
Et il ne faut surtout pas sortir de ce cycle. Nous ne devons pas le gâcher. Nous ne pouvons pas nous infliger à nous-mêmes des blessures qui briseraient ce cycle.
Le principal enseignement de l'enquête BMO 2017...
Stéphane Ducaté, directeur des statistiques de Pôle emploi.
C'est la forte hausse des projets de recrutement annoncés par les entreprises. On compte 150 000 projets supplémentaires en 2017 par rapport à 2016, ce qui fait une hausse de 8,2%.
De plus, cette reprise économique est assez bien répartie à travers le globe. Elle concerne aussi bien les économies avancées, pour lesquelles on observe une reprise dans les domaines de l'industrie notamment, que les marchés émergents des pays en voie de développement, qui continuent de croître à un rythme raisonnable et apportent près des 3/4 de la croissance mondiale.
Spring is coming, le printemps arrive. Et ce n'est pas vrai que pour le thermomètre, c'est vrai pour l'économie aussi. Si on en croit cette semaine le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et même Pôle emploi, croissance des richesses produites en 2017, 3,5% selon le FMI. Ça va mieux, on a déjà eu ce débat plusieurs fois, mais qu'est-ce qui est nouveau là, Emmanuel Lechypre ?
Le « ça va mieux » auquel on a souvent fait référence, c'était pour l'économie française.
Oui, c'était
eh oui, là, il faut élargir parce que effectivement, le « ça va mieux », il concerne l'économie mondiale. Il y a un institut américain qui est un très gros institut d'études économiques qui s'appelle IHS et qui calcule un indice de surprise. Hein, c'est pas est-ce que ça va bien ou est-ce que ça va pas bien, c'est est-ce
après
qu'on a des bonnes ou des mauvaises surprises.
L'indice de surprise.
Et ben cet indice des bonnes surprises, il est au plus haut depuis 2007. Il faut dire qu'il n'a été créé qu'après la crise de 2007, mais enfin il est à son record historique. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'effectivement pour la première fois depuis 2007, tout va dans le bon sens et partout. Hein, c'est-à-dire que quand vous regardez toutes les grandes zones, on voit que pour la première fois depuis la crise, toutes les grandes zones sont plutôt en phase d'accélération. Les États-Unis, c'est le pays qui a connu la reprise la plus précoce. On se dit, ils vont finir enfin par avoir la récession qu'ils ont tous les 6 ou 7 ans. Eh ben non. Ben non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de déséquilibre majeur dans l'économie américaine. Et on pense que même M. Trump va remettre un peu de charbon dans la machine.
Il vient d'annoncer d'ailleurs des baisses d'impôts massives pour les ménages et les entreprises.
Voilà. Donc l'économie américaine ira plutôt mieux même en 2017 qu'elle n'avait été en 2016 où elle avait connu un petit coup de mou. Quand vous regardez en Europe, eh ben, après la crise de 2007, il y a eu la crise de 2011 sur les dettes, notamment souveraines. Et ben là, on voit que la reprise, naturellement, cycliquement, on va dire, elle se développe parce que les entreprises ont réussi à se refaire une santé financière, qu'elles recommencent à investir, à embaucher. Il y a eu des politiques économiques qui étaient aussi plus accommodantes. Hein. Les politiques budgétaires sont devenues notamment plus stimulantes. Et puis qu'on a eu cette bouffée d'oxygène donnée à partir de 2014-2015 par la baisse des taux d'intérêt et par la baisse du pétrole. Les pays émergents, ils vont pas si mal aussi parce que notamment ceux qui fabriquent et vendent des matières premières bénéficient du redressement des prix de ces matières premières. Et puis il y a la Chine. Et ben la Chine, elle a un socle de croissance solide. Alors oui, c'est un pays en mutation. La vieille économie chinoise est en train de mourir, mais se développe une nouvelle économie. Il y a un vrai socle de croissance. Et puis enfin, les résultats des entreprises montrent aussi que, comme dans les pays, et ben finalement, ça va mieux. Donc oui, globalement, on a un panorama de l'économie mondiale qui est encourageant, comme il ne l'avait pas été sans doute depuis la crise de 2007.
Ça va vraiment mieux, Christian Chavagneux.
Je trouve Emmanuel très optimiste.
Très printanier.
Très printanier, un peu trop FMiste. Pourquoi ? Parce que, alors c'est vrai que les chiffres de croissance qui sont annoncés par le Fonds monétaire international sont assez impressionnants. Hein. 3,5 pour 2017, vous l'avez rappelé Marion, encore plus pour 2018, donc on se dit il y a vraiment un élan. En même temps, Emmanuel a bien décrit le scénario, mais il est complètement incertain. Pourquoi ? Parce que les baisses d'impôts annoncées par Trump, par exemple, on a vu ce qu'il nous avait annoncé aussi sur la sécurité sociale, ça n'a pas eu lieu, il n'a pas eu de majorité. Est-ce que demain, on est sûr qu'au moment où ça va arriver au Congrès, hein, à l'Assemblée nationale, au Sénat américain, est-ce qu'il va pouvoir voter ces baisses d'impôts ? C'est pas sûr. Et dans le scénario du Fonds monétaire international, il y a vraiment cette idée que la croissance américaine va repartir, va tirer en partie l'économie mondiale parce que il y a des baisses d'impôts. Or, elles sont plutôt incertaines. Emmanuel a dit, il y a un effet cyclique. Hein. L'effet cyclique pour les économistes, c'est très simple. C'est une fois que vous avez touché le fond de la piscine, le mouvement d'après, c'est plutôt vers la remontée. Ça ne veut pas dire qu'il y a un vrai dynamisme de l'économie européenne. D'ailleurs, les prévisions du Fonds monétaire international pour la zone euro, c'est 1,7%. Hein. 3,5% au niveau mondial, 1,7% pour la zone euro. Donc la zone euro, c'est plutôt un rebond une fois qu'on a touché le fond.
Et encore moins pour la France.
Et encore moins pour
1,4%.
La France. Exactement. Donc on est là sur plutôt... Alors, l'effet États-Unis, mettons que l'économie américaine aille mieux, donc on va plus exporter aux États-Unis, ça ira mieux. La bonne santé des émergents, ok, là ça tire les exportations. Patrick Artus a fait des petits calculs, nous dit vraiment on pourrait avoir plus 0,6 points de croissance, donc c'est quand même pas négligeable. La politique monétaire avec les taux d'intérêt bas qui permettent d'emprunter à pas cher et donc qui relance l'économie, qui fait que l'euro est faible, mais les économistes commencent à nous dire attention, l'effet de l'euro faible, c'est-à-dire nos produits sont plus compétitifs sur les exportations, ça commence à s'estomper. Donc attention, d'autant plus que Emmanuel l'a rappelé, les prix du pétrole et des matières premières en général ont bien baissé, mais là depuis août, ça remonte. Hein, les prix du pétrole remontent. Qu'est-ce que ça fait quand les prix du pétrole remontent? Ça mange en partie notre pouvoir d'achat, ça mange en partie la consommation. Donc ça, pour la zone euro et pour la France, c'est quand même pas terrible. Et puis il nous reste quand même dans la zone euro ce gros problème, ce grande économie déséquilibrée qui s'appelle l'Allemagne. L'Allemagne qui faisait beaucoup de son excédent sur la zone euro, moins de son excédent sur la zone euro aujourd'hui. Mais quand vous êtes dans une zone monétaire avec plein de pays, le fait qu'il y ait un pays qui fasse beaucoup d'excédents, c'est pas très grave. Il fait beaucoup d'excédents, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de capitaux. S'il remet les capitaux dans la zone, ben la zone va bien. Or, le problème de l'Allemagne, et c'est un problème récent, c'est que tous ces capitaux accumulés en Allemagne, au lieu d'aller dans la zone euro, comme ces dernières années, ben ça va en partie en Hollande, qui est déjà le pays qui va bien, et pour le reste aux États-Unis. Donc, il n'y a plus de redistribution en interne. Donc, je trouve que le scénario, il faut faire attention.
Christian fait la fine bouche quand même.
Emmanuel,
il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il faut se rappeler d'où on vient. Il faut se rappeler dans quel état d'esprit on était il y a un an, on se disait la déflation nous menace, le surendettement nous menace. Comment va-t-on faire quand les banques centrales vont recommencer à essayer de retrouver un petit peu des politiques monétaires traditionnelles, retourner à la normale, remonter un petit peu leur taux d'intérêt,
à envoyer moins de liquide dans le système,
vont s'écrouler, voilà. Et quand vous regardez, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on a l'impression que tout se goupille bien, quoi. C'est-à-dire qu'on se disait, bah finalement, on avait peur de la déflation. Ah oui, il nous faudrait un peu plus d'inflation. Eh bah, ben, on a un peu plus d'inflation. Mais pas trop. Alors, c'est pas encore de la bonne inflation.
Voilà, exactement.
Parce qu'elle vient des matières premières.
Exactement.
Et que pour le moment, c'est plus une inflation qui prélève du pouvoir d'achat. Mais regardons les pays anglo-saxons, aux États-Unis, au Royaume-Uni, un petit peu moins. Pas encore en Europe, c'est vrai, mais les salaires augmentent un petit peu. On nous disait, oh là là, quand les banques centrales vont annoncer qu'elles durcissent un petit peu leurs conditions de prêt et qu'elles mettent moins de liquidités dans l'économie, ça va être la catastrophe. Eh ben non. On voit que la Fed, elle réussit à remonter ses taux d'intérêt et que pour le moment, ça se passe.
Pas encore la BCE.
Ça se passe plutôt bien. On nous disait Donald Trump va faire du protectionnisme à tout va. Bon, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il a pris cette semaine quelques mesures pour les sidérurgistes. Mais enfin, c'est un peu ce qu'avait fait George Bush Junior au début des années 2000. On voit que ça avait certes sauvé quelques milliers d'emplois, mais pour un coût exorbitant et qu'il n'ira sans doute pas plus loin. Donc, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord. Après, il y a des vrais risques à moyen terme sur lesquels on reviendra sans doute. Mais concrètement, quand on se disait il y a un an, comment on va faire pour que la mécanique s'enclenche, c'est-à-dire un peu plus de croissance, un peu plus d'inflation, des taux d'intérêt un petit peu plus élevés pour aider le système financier qui nous permettront de rembourser un peu nos dettes. Alors oui, on a ce stock de dettes. Mais franchement, moi, je trouve que l'équilibre de la sortie de le chemin de la sortie de crise, il est étroit, mais que pour le moment, on est bien engagé dessus.
Ouais, on est sur le chemin, mais je pense que le précipice est vraiment pas loin.
Exactement.
Parce que les 2% d'inflation que le FMI nous annonce, et ils disent bien quand même dans leur scénario que c'est 2% qui est lié, comme vient de le dire Emmanuel, aux matières premières, essentiellement au pétrole, aux métaux, et que lorsqu'on enlève cet effet-là, on est plutôt à zéro. Donc le risque de déflation, il est quand même pas loin. Et puis ajoute le Fonds monétaire, je le trouve de manière très juste, les politiques budgétaires. Alors on dirait, on a gagné par rapport aux années précédentes où les politiques budgétaires tiraient la croissance vers le bas. Elles avaient un effet déflationniste. Là, le Fonds monétaire nous dit que les politiques budgétaires ont un effet neutre sur l'activité. Mais un effet neutre, ça veut dire que ça ne soutient pas l'activité. Donc, si tout le reste va bien et qu'on est dans le scénario optimiste d'Emmanuel, tant mieux. Mais si tout le reste ne va pas bien, alors les États ne font toujours pas leur travail.
Ça reste fragile. Emmanuel Lechypre, alors je le disais tout à l'heure, on n'a pas le droit, évidemment, évidemment de parler ni de candidats, ni de leur soutien. Mais si on faisait un petit focus France, parce qu'on entendait le statisticien de Pôle emploi qui nous expliquait que les demandes d'embauche allaient augmenter l'année prochaine, assez largement, une première depuis 15 ans, je crois. Qu'est-ce qui se passe en France? Ça va mieux aussi, finalement?
Alors, et là, je vais titiller Christian. Si vous prenez, il y a deux façons de voir les choses. Vous regardez les deux photos, la photo de 2012, la photo de 2017. Et là, c'est vrai que quand vous regardez les grands agrégats, c'est difficile de dire que l'économie française va vraiment mieux en 2017 qu'en 2012. Vous avez par exemple 500 000 chômeurs de plus. Vous avez une croissance qui n'est pas extrêmement plus forte. Alors vous avez des déficits publics qui ont diminué, mais au prix d'une augmentation des impôts de 35 milliards sur les ménages. Mais ça, c'est les photos. Si vous regardez le film, en revanche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce moment crucial du quinquennat de François Hollande qui est ce que j'appellerais le tournant de la compétitivité. En 83, sous Mitterrand, vous aviez eu le tournant de la rigueur.
Je sais pas pourquoi tout le monde rigole.
Qui avait marqué le début, d'une politique économique qui avait commencé à redresser la France. Et ben là, 2014, pacte de responsabilité, CICE, puis d'autres
baisse
mesures favorables
sociale,
aux entreprises.
Travail,
et là,
résumé,
vous voyez sur la période 2014-2017? Vous voyez qu'on a 100 000 chômeurs de moins. Vous voyez que les perspectives d'embauche des entreprises sont meilleures qu'elles ne l'ont jamais été depuis 15 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on est en train de vivre une reprise qui crée des emplois, mais qui crée plus d'emplois qu'avant.
Les comptes publics pour créer de l'emploi.
C'est moins que ça aujourd'hui. Comptes publics sont quand même en bien meilleur état. Depuis 2014, vous regardez quoi? Il n'y a plus d'augmentation d'impôts. La dette n'augmente plus. Le déficit est stabilisé. Vous regardez l'attractivité de la France. L'attractivité de la France, elle ne cesse de s'améliorer d'année en année, nous disent les grands classements internationaux.
Les
investisseurs veulent venir en France. Si vous regardez sur les marchés financiers, il y avait à peu près match nul entre les intentions d'investissement en Allemagne et en France il y a encore 6 mois de ça. Aujourd'hui, massivement, les investisseurs veulent venir en France et notamment sur les marchés financiers français. Donc, par rapport à 2014, il n'y a pas photo, la France va mieux qu'en 2014.
Christian Chavagneux, vous avez les mêmes lunettes roses qu'Emmanuel Lechypre?
Non, le constat, il a été fait. Effectivement, le gouvernement Hollande a privilégié la réduction des déficits budgétaires sur la création d'emplois. Donc l'austérité l'a emporté sur l'ensemble du quinquennat au détriment de la création d'emplois. On a essayé de compenser un petit peu pour aider les entreprises avec le fameux CICE et le pacte de responsabilité. On a eu des études à l'automne dernier sur l'impact emploi de ces baisses de cotisations sociales et les conséquences, ça a été très très peu de création d'emplois. Donc s'il y a des créations d'emplois, et il y en a, l'inversion de la courbe du chômage, elle a bien eu lieu depuis l'automne dernier, mais c'est pas du tout dû au CICE, c'est dû au fameux alignement des planètes dont la France a pu bénéficier.
On parlait des taux bas, du pétrole
des taux d'intérêt bas, pétrole moins cher l'année dernière, une relance dans les autres pays, etc. Donc je pense pas que ce soit du tout l'effet du CICE, mais par contre oui, c'est vrai, il y a eu inversion de la courbe du chômage, malheureusement dans des proportions trop faibles pour que ça puisse vraiment bénéficier à l'emploi de manière générale. Et c'est le CEPR qui est un centre de recherche britannique qui suit l'économie mondiale, c'est vraiment des gens qui sont plutôt, on va dire, centre droit, centre gauche, un petit peu la grande majorité d'économistes de centre droit, et qui viennent de sortir une note cette semaine disant l'économie française, elle est plombée complètement. Elle a été plombée complètement par l'austérité budgétaire et tous ceux qui nous disent qu'il n'y a pas assez de flexibilité sur le marché du travail, ils donnent plein d'indicateurs. Il y a dans l'économie française une grande flexibilité du marché du travail. Cette explication ne tient pas.
Si on peut encore parler de la France, ce que je trouve intéressant dans toutes les enquêtes qui sont sorties cette semaine sur le marché du travail, c'est de montrer que à quel point il y a quand même une inadéquation entre l'offre et la demande de travail. C'est-à-dire que on voit que bien qu'on ait encore 3,7 millions de chômeurs au sens strict, les entreprises butent sur des contraintes de recrutement. 60% des entreprises qui veulent embaucher un cadre disent que ça va pas être facile. 40% des entreprises qui veulent embaucher un salarié en général. Et pourquoi? Effectivement, là je rejoins Christian, pas parce que le code du travail est trop compliqué, etc. Parce que on a du mal à trouver les formations adaptées. Et le grand défi des années à venir pour l'économie française, plus que jamais, c'est la formation et l'éducation à l'école comme dans l'entreprise.
Et Pôle emploi l'a mis en avant cette semaine en annonçant ces bons chiffres dont on parlait. On va passer de la France à la Chine pour illustrer là aussi une certaine bonne humeur économique. On y va décortiquer les chiffres.
全球新闻,中国播报,各位好,欢迎收看这一节中国新闻,我们来看一下。Bonjour
Dominique André.
Bonjour Marion.
Correspondante de France Inter en Chine, la Chine qui a pu faire peur en 2015 avec sa crise boursière atteindrait 6,6% de croissance cette année, selon le FMI qui revoit ses chiffres à la hausse.
Oui, et 6,9 de croissance pour les trois premiers mois, ça fait remonter effectivement les perspectives de l'année 2017. Le printemps est officiellement radieux en Chine. Alors si on regarde les statistiques, on trouve au moins trois explications à ce redressement ou plutôt sursaut. La première, c'est que les investissements dans l'immobilier continuent de grimper, un peu plus de 9% en mars. Et ce, malgré les restrictions imposées par les grandes villes de Chine qui veulent limiter le nombre d'habitants. La deuxième raison, c'est que l'État poursuit sa politique de relance des grands travaux dans les infrastructures. Troisième explication, les consommateurs. On nous annonce une hausse des ventes de détail de presque 11% le mois dernier avec une demande pour l'électroménager et l'ameublement qui équipent ces fameux logements neufs. Et puis, les Chinois achètent de plus en plus de voitures. Le dernier salon de l'automobile à Shanghai montre que les ventes de véhicules se redressent avec une forte demande pour les petites cylindrées, notamment dans les marques chinoises.
Mais Dominique, les experts se méfient toujours des statistiques chinoises. Le Fonds monétaire accuse le gouvernement chinois de soutenir artificiellement cette croissance.
Oui, le fonds laisse même entendre que le gouvernement chinois agirait ainsi quelques mois avant le congrès du Parti communiste en octobre, au cours duquel le mandat du président chinois sera renouvelé. Xi Jinping arriverait ainsi en position de force. Le fonds s'inquiète essentiellement d'une hausse du crédit qui menacerait le système financier en Chine. En Chine, il faut savoir qu'il existe une finance de l'ombre avec des officines qui prêtent de l'argent aux particuliers et aux entreprises privées, les entreprises publiques étant prioritaires pour les crédits accordés par les banques. Ce système financier n'est pas ou très peu contrôlé et il est potentiellement dangereux car il présente des risques d'emballement du crédit. Il est bien difficile de savoir où mènera cette course à la croissance. Ce qui est sûr, c'est que pour le Parti communiste chinois, il y a une équation prioritaire. Croissance élevée égale stabilité sociale. Il en va de la survie du Parti communiste et le premier à l'avoir dit, c'est Hu Jintao, le prédécesseur de Xi Jinping.
Dominique André, depuis le bureau de France Inter à Pékin, merci beaucoup. Dominique André, parler du risque de bulle, Christian Chavagneux, c'est le principal risque qui pèse sur l'économie aujourd'hui?
Ah, je vais faire mon chevreau grognon hein, aujourd'hui. Donc oui,
Alors Emmanuel a les lunettes roses et Christian les lunettes noires.
Bah oui, on se partage un peu les tâches. Oui, 6,6% de croissance à peu près pour cette année, mais en baisse pour l'année prochaine. C'est vrai que la croissance chinoise aujourd'hui, elle a un gros problème. Certes, elle est là, mais c'est une croissance complètement à crédit. Hein, le Fonds monétaire nous dit, alors, l'ensemble des dettes de l'ensemble des acteurs, l'État plus les entreprises, plus les ménages, ça fait 250% du PIB. Bon, est-ce que les chiffres de dette publique, ce qui nous dit la dette publique, c'est 50% du PIB? Nous, c'est le double, hein, en France, par exemple. Est-ce qu'ils sont justes ou pas? En tout cas, la dette publique paraît maîtrisée. Par contre, la dette des acteurs privés, elle est extrêmement forte. Le système financier chinois, il est complexe, opaque, on n'y comprend pas grand-chose. La vraie question pour nous, je m'excuse pour nos amis chinois, mais l'important c'est est-ce que nous, ça aurait un impact si des fois, il y avait une crise bancaire ou financière
comme
en Chine?
On l'a redouté en 2015.
A priori, je pense que non. La Chine n'est pas systémique. Le système bancaire chinois, pardon, n'est pas systémique. Si vous avez l'équivalent du Lehman Brothers chinois qui fait faillite demain matin, ça n'aura pas du tout, mais alors pas du tout l'impact que ça a eu pour les grandes banques industrialisées. C'est vrai qu'il y a des liens entre le système financier chinois, bancaire chinois et nos systèmes bancaires à nous, mais ils ne sont pas tels que le système bancaire chinois soit systémique.
Et Emmanuel de Chypre, il y a le risque de bulle. Un des autres risques mis en avant par Christine Lagarde, là, c'est plutôt au niveau mondial, c'est le protectionnisme.
Oui, effectivement, il y a un risque parce qu'on... Alors, il y a un risque, quand on regarde quand même l'histoire, et on ne va pas pouvoir la refaire, et là je pense que Christian sera d'accord...
Qu'on peut pas refaire l'histoire.
Non, c'est-à-dire qu'il y a ce mythe un petit peu, enfin ancré, qui est que le protectionnisme a été l'élément qui a précipité le monde dans la Grande Dépression dans les années 30. Et je pense que Christian sera d'accord avec moi pour dire que c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que la responsabilité du protectionnisme, elle est pas si grande que ça. C'est plus compliqué que ça. Mais quand même, pourquoi c'est embêtant aujourd'hui? Parce que vous savez que les entreprises ont éclaté totalement leur processus de production à travers le monde. Et que la vision qu'on a avant du commerce à l'ancienne, c'était, il y a une voiture qui est fabriquée quasiment totalement aux États-Unis ou totalement en Europe et totalement au Japon. Et la concurrente de la voiture fabriquée aux États-Unis ou en Europe, c'est la voiture qu'on importe par bateau du Japon. Ça se passe plus du tout comme ça. Quand vous avez, par exemple, dans des pays comme les États-Unis ou la France, 40% d'un produit made in USA qui est en réalité composé de produits fabriqués ailleurs. Vous voyez bien que mettre des barrières protectionnistes, c'est très compliqué. Hein, on l'a déjà dit ici, une voiture GM ou une voiture Ford, Vous regardez ces composants, ils passent en moyenne 8 fois la frontière entre le Canada et les États-Unis ou le Mexique et les États-Unis.
Donc si on les taxe, ça fait monter les prix pour nous.
Moi, voilà, exactement. Et au final, c'est le consommateur qui paye. Parce qu'il n'y a plus de substitut.
Ça dépend si le prix de l'impôt et des taxes supplémentaires redistribués, le pouvoir d'achat, ça n'a pas d'impact sur le pouvoir d'achat.
C'est pour ça que je redistributif pense, c'est pour ménages. Ça que je pense que il y a beaucoup de risques qu'on a évoqués là qui sont, à mon avis, surestimés. Le risque de krach financier, il n'existe pas, parce qu'on a en mémoire 1994, le krach obligataire, mais qui était lié à une erreur de communication de la Banque Centrale Américaine qui avait surpris les marchés. Mmh. On n'est pas dans ce cas de figure-là. Moi, je pense qu'effectivement, la principale menace pour cette année, c'est Donald Trump, son programme fiscal pour les ménages et son programme surtout, qu'est-ce qu'il va faire pour inciter les entreprises américaines ou non à rapatrier leurs capitaux, parce que là, effectivement, ça peut changer complètement la vision qu'on aura de cette économie américaine, et plus que le protectionnisme, plus que la dette, qui sera un problème à terme, mais pas cette année, ça, pour moi, c'est la variable à surveiller en 2017, plus que toutes les autres.
Christian Chavagneux, ouais, comment peut-être la principale menace, vous êtes d'accord avec Emmanuel?
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel. Je ne crois pas du tout à l'impact des politiques protectionnistes sur le commerce. Donc, bon, c'est un débat entre historiens, mais je pense qu'il mérite d'être mené. Et oui, je pense que les politiques commerciales des États ont moins d'impact que ce qu'on croit sur le commerce. Il y a deux autres craintes quand même. Un, c'est la dérégulation financière. On n'est quand même pas au bout de la maîtrise des dérapages des banques et des marchés. Et aujourd'hui, et de Trump, et du côté de l'Europe, on voit qu'il y a peut-être des tentations
de redérégulation financière.
Et puis, il y a une étude qui est sortie, moi, qui m'a beaucoup marqué. Vous savez que vous, premier cours d'économie que vous faites, on vous apprend que les ménages épargnent et puis que les entreprises empruntent pour développer leur investissement. Eh bien, vous avez 3 économistes américains qui regardaient ça au niveau mondial. Depuis les années 90, l'épargne des entreprises explose à tel point qu'aujourd'hui, les entreprises sont, au niveau mondial, créditrices du reste de l'économie mondiale. C'est-à-dire que les entreprises prêtent de l'argent au reste de l'économie. Ça marche pas du tout, du tout. L'économie mondiale marche sur la tête. Les entreprises font trop de profits, en tout cas n'utilisent pas assez leurs profits pour le remettre dans l'économie. Ça, pour moi, c'est un gros risque pour demain.
Il nous reste quelques secondes pour vos coups de cœur, coups de gueule économiques de la semaine, Emmanuel Lechypre.
Ah bah allez, mon petit coup de cœur écolo, tiens. J'ai découvert cette semaine un chiffre dans une étude publiée par Opinionway et Volpi, qui est une application de recyclage des portables, que un portable, c'est 70 kilos de ressources naturelles mobilisées. Et qu'en fait, on a conscience que ça pollue, mais qu'en fait, quand on a fini avec notre portable, eh ben, on le laisse dans un tiroir, personne pense à le recycler, voilà. Donc, il y a plus de 20 millions de portables qui traînent dans nos tiroirs. Donc, je dis, essayons d'économiser un peu de ressources en pensant à la deuxième vie que peuvent avoir nos portables une fois qu'on ne les aime plus, qu'on les a délaissés pour le tout nouveau portable à la mode.
Christian Chavagneux.
Moi, une petite note publiée il y a une dizaine de jours par Philippe Askenazy, l'économiste français, et Christine qui s'appelle Productivité et qualité de l'emploi, qui montre que quoi, vous savez, dans ce grand débat sur il y a un ralentissement de l'efficacité de l'économie française, des gains de productivité, et bien une des causes, montre cette étude, c'est que c'est quand il y a plus de flexibilité du travail, et bien il y a moins de productivité dans l'économie. Un bon débat pour essayer de guider votre vote pour demain.
Et pour une prochaine émission, chers débatteurs,
Christian... c'est limite là, c'est limite.
Christian, Christian Chavagneux, pas de nom, pas de mesure de programme. Chers débatteurs, Christian Chavagneux, Emmanuel Lechypre, ce fut un plaisir de partager ces quelques semaines avec vous. Vous revenez la semaine prochaine avec Alexandra Ben Saïd qui reprend son fauteuil. Dans la prochaine demi-heure, on parle Guyane, guerre des étoiles et fusées avec le patron d'Ariane Espace. Mais d'abord, on fait Cocorico. Alors, comment on fait Cocorico en intelligence artificielle? La France brigue la première place dans un secteur en plein essor.